Bonjour Éric Médard.
Bonjour.
Vous nous offrirez une pause nature au centre Initiation Nature dans le bois de l'Huisserie à Laval. Ça sera tous les jours de 14h à 18h. Avant de parler de cette expo, on va parler de vous. Vous êtes artiste photographe naturaliste. Vous êtes né en 1968 dans la Sarthe. J'espère que ça n'a pas été un trop gros handicap. Racontez-nous quel type d'enfant vous étiez, déjà très proche et amoureux de la nature. J'imagine quel a été le déclic.
Alors oui, depuis que je suis gamin, en fait, moi je passe mon temps dans la... Ben, c'était dans le bocage sartois, du coup, à l'époque. Mes grands-parents avaient une petite ferme dans le bocage sartois, près de Tuffet. Et donc j'ai passé toutes mes vacances de gosse et j'ai eu la chance d'avoir et des grands-parents et des parents qui me laissaient autonome à l'époque. C'était peut-être plus fréquent qu'aujourd'hui. Donc je passais dès ma toute petite enfance, hein, dès l'âge de 5, 6, 7 ans, j'étais parti dans les bois, j'étais parti à la pêche et je passais mes journées à contempler la nature et à rester immergé dans cette nature sauvage, dans ce bocage sauvage. Donc ça m'a profondément marqué. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai continué à m'intéresser à la nature, à aller observer les animaux sauvages. Et ensuite, j'ai fait tout naturellement des études de sciences naturelles pour être enseignant de biologie, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. J'ai été enseignant, mais dans le professorat des écoles. Mais voilà, ces études-là m'ont permis d'acquérir des connaissances scientifiques beaucoup plus précises par rapport à la nature, à la faune, à la flore. Et puis, j'ai voulu témoigner de toutes ces rencontres que je faisais. L'outil que j'ai trouvé pour témoigner de ces rencontres, ça a été assez rapidement l'appareil photographique, en fait.
Vous avez donc évoqué, Éric Médard, votre proximité à l'environnement. Et ça n'est pas une parole en l'air. Ce que vous appréciez, c'est photographier sur le pas de votre porte. Vous n'aimez pas les longues distances ?
Alors, c'est pas que j'aime pas les longues distances, parce qu'évidemment, la faune, certains animaux, certains endroits, certains parcs naturels très loin de chez nous me font rêver comme beaucoup de naturalistes, mais il se trouve que chez nous, on a exactement aussi les mêmes conditions sauvages, en fait. On a vraiment des animaux qui gagnent à être connus, qu'on connaît pas, qui vivent là, juste à côté de nous, et ça m'intéresse énormément de les montrer. D'abord, je m'ennuie jamais de voir, de photographier et de refotographier à nouveau le chevreuil, le blaireau, le renard, qui sont des animaux extrêmement communs, qui vivent tout près de chez nous. Donc j'aime aller toujours à leur rencontre, même si j'ai déjà des milliers d'images de ces animaux. D'abord, j'apprends toujours en les observant. Et ce qui m'intéresse, c'est de partager ça et de montrer au grand public que cette faune qui les entoure, là, elle est d'une richesse incroyable, elle est d'une beauté aussi infinie. Et qu'on a vraiment intérêt à réapprendre à les connaître et à les observer, tous ces animaux. D'abord parce que si on ne les connaît pas, c'est ce que je dis souvent, on ne peut pas les protéger.
Éric Médard, un artiste qui réduit son empreinte carbone, bravo. À la bascule du siècle dernier, le numérique a remplacé l'argentique. Comment, personnellement, vous avez vécu cette bascule ? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui souhaiteraient y revenir ?
Alors non, moi absolument pas. C'est d'ailleurs pendant longtemps quand le numérique est arrivé, j'ai dit oh là là, jamais ça ne sera aussi bon qu'une bonne diapositive. Et puis en fait, je m'étais trompé comme je m'étais trompé quand l'autofocus est arrivé et qu'à l'époque on travaillait qu'en manuel en me disant mais ces autofocus sont jamais suffisamment précis pour être aussi précis que l'œil en mise au point manuel. Ben je m'étais aussi trompé. Donc aujourd'hui on a même une nouvelle génération aujourd'hui d'appareils photos qui sont arrivés, qui sont des appareils photo hybrides, qui embarquent une quantité d'intelligence artificielle incroyable. Et je dois dire que là aussi, c'est une révolution. Et ça me permet de faire des images que j'aurais jamais imaginé faire, ne serait-ce qu'il y a encore 2 ans. Et les appareils que j'utilisais il y a 2 ans m'ont aussi permis de faire des images que je n'aurais pas imaginé faire 10 ans auparavant. Donc ces progrès techniques sont vraiment très très intéressants et pour rien au monde je reviendrai au monde de l'argentique parce que vraiment on fait des images qui sont plus dynamiques, qui nous permettent aussi, on peut photographier aujourd'hui très très tôt le matin, très très tard le soir, à la nuit tombée, hein, ce qui était totalement impensable du temps de l'argentique. Donc on a des conditions de travail aujourd'hui avec le matériel qui sont d'abord plus simples, plus économiques aussi, et puis qui nous permettent vraiment de faire des images qui étaient inimaginables avant, en fait.
Éric Médard, vous êtes spécialisé dans la photographie à l'aide de pièges. Alors, ce sont des pièges bien évidemment inoffensifs pour les animaux. Expliquez-nous cette technique.
Alors oui, le piège photographique, c'est une approche qui permet de faire des images qu'on peut pas faire autrement. Parce que faire des photos au piège photographique, si c'est pour faire les mêmes photos que ce qu'on fait en étant à l'affût, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais par contre, si on veut photographier un animal, par exemple, de très près au grand angle, c'est-à-dire voir l'animal à quelques dizaines de centimètres ou à moins de 2 mètres de 2 mètres du sujet, si on veut que l'appareil soit à moins de 2 mètres du sujet, eh bien, on n'a pas d'autre solution la plupart du temps que de mettre en place un système de piège photo. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste l'appareil photographique qui est mis en place avec peut-être des éclairages, si on travaille la nuit par exemple, et un système de détection de l'animal qui fait que lorsque l'animal va passer précisément à l'endroit où on veut faire la photographie, eh bien ça va déclencher tout le dispositif. Alors ça implique de bien connaître tous les indices de présence de ces animaux, parce qu'en fait il faut détecter la présence de l'animal ou le passage régulier de l'animal sans le voir. C'est juste par l'étude des empreintes, des crottes, des odeurs parfois, qu'on arrive juste à localiser des endroits qui seront intéressants d'un point de vue esthétique. Donc en fait on a juste un décor, on imagine des éclairages s'il y a besoin ou un cadrage, et on met en place le dispositif qui est extrêmement précis, qui va déclencher un endroit très précis, et il suffit d'attendre que l'animal passe dans le décor, en fait, enfin le décor qui est naturel, hein, mais ce décor qu'on a imaginé dans notre cadrage photographique. Et l'avantage, c'est que comme ça travaille tout seul, bien on n'a pas besoin d'être là et d'attendre des jours et des jours, mais une fois que c'est installé, eh bien les images se feront toutes seules si tout fonctionne. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est une technique qui est extrêmement compliquée et qui est souvent même beaucoup plus compliquée que de travailler à l'affût.
Et je renvoie vers votre site internet, notamment pour découvrir vos œuvres. Vos photographies ont été primées dans de nombreux concours internationaux, dont le prestigieux BBC Wildlife. Vos travaux sont publiés dans de nombreuses revues internationales. Comment vous vivez cette notoriété? Au départ, c'était un tremplin. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance de votre passion?
La notoriété, je suis pas, c'est pas quelque chose qui me motive vraiment. Ce qui me motive vraiment plutôt, c'est que mon travail soit connu de façon à tout simplement le vendre pour en vivre. Le prix du BBC notamment, ça a été un prix assez intéressant pour moi parce que ça a permis de faire connaître tout mon travail que j'ai pu faire sur l'infrarouge. Donc cette approche photographique nocturne avec des lumières invisibles, enfin invisibles parce que notre spectre du visible n'est pas dans l'infrarouge, et pour les animaux c'est la même chose. Donc ça a permis vraiment de faire connaître ce gros travail de fond qui a été concrétisé par un livre qui s'appelle Passeur de Lune. Et donc c'est un prix qui m'a fait de ce point de vue-là assez plaisir.
Éric Médard, vous avez publié en septembre 2018 un ouvrage intitulé Les plus beaux paysages de la Mayenne. Est-ce que ça répondait à une commande institutionnelle ou à une envie personnelle ?
Non, ça répondait pas à une commande du tout. C'était vraiment une envie personnelle, puisque comme vous l'avez souligné, je venais de la Sarthe et en bon sartois, je ne connaissais pas la Mayenne. Et donc, ce livre, ça a été un petit peu le prétexte pour moi pour aller découvrir ces différents paysages de la Mayenne, qui sont ceux du coup de mon territoire. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre ce département, de mieux le connaître. Et aussi, j'avais fait le constat qu'en fait, il n'y avait pas de livre du tout sur les paysages de la Mayenne, donc c'était l'occasion d'en faire un, et je pense que les Mayennais étaient en attente de cet ouvrage.
Et vous nous offrirez donc une pause nature au Centre Initiation Nature dans le Bois de l'Huisserie à Laval. Que pourra apprécier le public ?
Alors l'idée de cette c'était une commande du Bois de l'Huisserie et puis du département de la Mayenne l'idée c'était de montrer la biodiversité du Bois de l'Huisserie. Donc toutes les photographies ont été réalisées dans le cadre de ce travail photographique spécifique sur le bois de l'Huisserie. Donc on va pouvoir apprécier à la fois des amphibiens, des oiseaux, des mammifères, toute cette faune en fait qui est présente dans le bois, qui est malgré tout assez discrète et pas si importante que ça. Enfin, on sent que c'est un bois périurbain en fait, hein, sur lequel il y a quand même pas mal de dérangements du fait de la présence humaine assez assez importante et de l'exploitation forestière aussi. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là de voir voir la faune qui était présente ou pas. Alors j'ai pas fait un inventaire exhaustif, hein, bien sûr, parce que c'était pas l'objet et c'était pas, j'avais pas le temps non plus de réaliser un travail comme ça, mais c'était vraiment de mettre de l'accent sur certaines espèces et puis d'essayer de les montrer sur leur plus bel angle.
Je l'ai rappelé en préambule, Éric Médard, vous êtes né en 1968, vous ne pouviez donc pas être dans les cortèges et les manifestations qui réclamaient plus de liberté individuelle. Est-ce qu'aujourd'hui on vous compte parmi ceux qui réclament une meilleure prise en compte de l'urgence climatique et environnementale? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de mal?
Oui, c'est une problématique évidemment qui me tient extrêmement à cœur, notamment, alors évidemment le réchauffement climatique, mais un phénomène, enfin un domaine dont on parle un petit peu moins que le réchauffement climatique et qui pourtant est largement aussi important, je pense. Enfin, de toute façon, les deux ont une extrême importance, mais c'est l'érosion de la biodiversité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis amené à constater malheureusement quasi tous les jours, en tout cas tous les ans. Et tous les ans, je constate une érosion qui est encore plus importante chaque année que l'année précédente. Et quand on s'en rend compte à l'échelle d'une vie, et je dirais même plus à l'échelle d'une décennie, voire à l'échelle d'une année sur l'autre, ça montre à quel point le phénomène est extrêmement impactant et extrêmement inquiétant. Et j'essaye à travers donc mes conférences, à travers mes parutions, à travers mes livres et tout le travail que je suis amené à faire autour de la faune et de la biodiversité, de sensibiliser à ces problématiques-là.
Il n'y a plus de moucherons qui viennent se coller sur les objectifs de vos appareils, c'est ça ?
Ouais, ben voilà, c'est un exemple qu'on prend souvent, hein. Mais il y a un autre exemple que je prends souvent pour essayer de faire prendre conscience de la gravité, en fait, de la situation dans laquelle on est. En Mayenne, on a une forte production de maïsiculture et de blé. Et donc, il faut imaginer que dans un champ de maïs, on a moins de biodiversité que sur le parking d'une grande surface. Donc, ce que je dis aux gens, c'est... Alors, on peut prendre plein d'exemples, hein, mais c'est réel. Dans un champ de maïs, il n'y a quasiment rien qui vit à part du maïs. Et un sanglier ou un lièvre qui le traverse de temps en temps, et sachant qu'ils sont, ils y sont pas les bienvenus. Eh bien, on imagine quand on fait un circuit en voiture, quel qu'il soit, à chaque fois qu'on longe des champs de maïs et de blé, on imagine que c'est un parking bétonné. Eh bien, voilà ce que ça veut dire, en fait, en termes de biodiversité. Et on peut même dire que si c'était des parkings bétonnés, on aurait sans doute plus de biodiversité sur ces parkings-là, avec quelques arbres parsemés, comme on peut trouver sur les parkings grande surface, que dans un champ de maïs. Donc on imagine dans quel état on met notre campagne mayennaise et française et européenne vis-à-vis de ces problématiques-là.
Avant-dernière question, Éric Médard, pour s'améliorer soi-même, on regarde souvent ce qui se fait ailleurs. Quels sont les photographes, contemporains ou pas d'ailleurs, que vous admirez ?
Alors, oui, il y a beaucoup de photographes que j'admire et notamment des photographes contemporains, des gens qui sont parfois plus âgés que moi et des gens qui sont aussi plus jeunes que moi. Ce que j'aime surtout, c'est les gens qui travaillent réellement à partir d'animaux sauvages, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui produisent de l'image à partir de soit d'affûts payants, c'est-à-dire des endroits qui sont déjà tout préparés, il n'y a plus qu'à y aller pour faire des images. Pour moi, ça, c'est pas de la photographie naturaliste. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de voir des travaux faits par des gens qui sont avant tout naturalistes, c'est-à-dire qui connaissent très très bien la nature et qui la photographient dans leur milieu naturel avec le plus grand respect. Alors il y a aussi des Américains qui m'accompagnent depuis longtemps, des Anglais également. Donc on a tous comme ça des images qui nous font rêver et qui nous inspirent. Alors l'idée c'est pas du tout de les copier, mais c'est plutôt de s'en servir comme de base d'inspiration pour essayer de créer soi-même ces images et puis d'essayer d'avoir une démarche reconnaissable dans la production de ces photographies.
Éric Médard qui nous offre une pause nature au centre Initiation Nature dans le bois de l'Huisserie à Laval. C'est tous les jours de 14 à 18h et on termine par la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose.
Oula, quelle question j'aurais aimé que vous me posiez je sais pas. Si je prenais mon vélo pour aller faire des photographies, eh bien la réponse est oui. J'essaye au maximum de me déplacer, comme on disait, donc juste autour de chez moi et quand c'est possible d'avoir cette empreinte carbone, cette fameuse empreinte carbone la plus basse possible.
Merci Éric Médard.
Merci.